With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Binge Audio présente.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, vous le savez peut-être, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe.
Alors aujourd'hui dans Kif Taras, on retourne à l'école, à la cantine plus précisément. La rentrée des classes, c'était hier, avec son lot de tracasseries, d'angoisses, de protocoles sanitaires, de fermeture de classes surchargées, de moins de moyens, et la cantine qui est dégueu. Alors, tout ça alors que nos gouvernements successifs ne cessent de citer l'école comme une priorité de leur politique publique et de brandir le futur de nos bambins comme leur préoccupation centrale. L'école, c'est là que se jouent nombre de nos enjeux de société, la lutte dans nos écoles et nos quartiers. C'est le thème de notre Kif Taras du jour.
Et pour nous accompagner, nous avons le grand plaisir de recevoir Fatima Ouassak. Salut Fatima.
Salut Fatima.
Salut Rokaya.
Si, bienvenue. Alors, merci. Tu es politologue, cofondatrice du Front de Mer, premier syndicat de parents des quartiers populaires. Tu es aussi présidente de l'organisation féministe le réseau classe genre race. Tu es surtout, c'est pour ça qu'on te reçoit, l'autrice du livre La puissance des mères, qui est paru le mois dernier aux éditions La Découverte.
Merci d'être là.
Merci.
Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel qui est de se situer sur le plan racial avant de prendre la parole sur ces questions dont on fait le thème central de notre podcast, les questions raciales. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu introduis ton point de vue qui est situé, que tu situes et que tu places explicitement déjà au début de ton livre, mais aussi tout au long du livre de ta position de mère. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Et toi, Fatima, est-ce que tu es définie, tu te définis et si oui, comment ?
Alors oui, effectivement, je me définis clairement dans le livre, dès le début en fait, dans le prologue, je me situe, donc je suis dans le livre une mère arabe, une mère musulmane, une mère d'origine africaine, une mère déjà. Donc effectivement, j'ai un point de vue situé, et en même temps, ce que je dis, c'est qu'on peut tout à fait avoir un point de vue situé et essayer de proposer un projet universel. C'est-à-dire que c'est pas parce que le point de vue est situé qu'on fait le deuil de l'universel. En réalité, mon point de vue est situé, mais autant que n'importe quel point de vue de n'importe quel auteur, autrice qui écrirait un livre, et notamment avec un fort enjeu politique. Donc voilà, c'est ce parallèle entre point de vue situé et universel, pour prétendre à l'universel, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est noir, arabe, musulman, musulmane, asiatique, en France, qu'on fait le deuil de l'universel, qu'on serait enfermé dans notre identité, qu'on ne s'adresserait finalement, par exemple pour ce qui me concerne, qu'aux femmes habitant les quartiers populaires, ou qu'aux femmes musulmanes, ou qu'aux femmes d'origine africaine. Donc voilà, c'est cette ligne de crête, cette tension tout au long du livre entre point de vue situé et universel que j'ai voulu, dès le début, explorer.
Et est-ce que dans ton parcours personnel, il y a un moment où tu as découvert cette définition, parce que tu es née dans le Rif marocain et aujourd'hui tu es aussi française. Comment est-ce que tu as découvert le fait d'être mère, je sais, j'imagine que tu as découvert d'une manière assez brutale, brutale par l'accouchement, etc. Mais tout le reste.
Oui, alors, c'est particulier, mais comme pour tout le monde. C'est-à-dire que, effectivement, quand je disais tout à l'heure, je suis une mère arabe, notamment, ben, je ne suis pas si arabe que ça. Parce que, alors, moi, je suis née, effectivement, dans le Rif marocain, où, en fait, on n'est pas arabe, on est berbère, comme on dit. C'est-à-dire, on est amazir. Donc, dès le début, j'étais dans cette complexité identitaire, en réalité, parce que, voilà, moi, j'ai grandi dans une famille où, en fait, on n'était pas du tout considérés comme arabes. Les arabes, c'était les autres au Maroc, mais pas dans notre famille, pas dans le Rif. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais considéré que les identités étaient définitives, enfin, dès le départ, en fait, nous, en tout cas dans ma famille, et d'autant plus qu'on est immigré, c'est-à-dire qu'on a grandi en France, même si je suis née au Maroc, j'ai grandi en France, il y a toujours eu cette, non seulement une complexité identitaire, mais aussi voilà, l'idée que c'est jamais définitif, que ça dépend vraiment de là où on se situe, c'est-à-dire que je savais bien que face à l'institution scolaire, par exemple, ben, nous étions arabes, et je ne remettais pas en question ça, je ne disais pas non, je ne suis pas arabe, je suis berbère. Et en même temps, voilà, comme je disais, dans ma famille, ben, il était naturel pour moi de ne pas me définir comme arabe, je savais qu'on était amazir. Et ça, je pense que c'est important de le dire, qu'en réalité, dans les quartiers populaires et dans l'immigration, on a des définitions très... très changeante, très et puis on bricole finalement avec les identités et on a une grande facilité à passer d'une identité à l'autre et à la remettre en question et à la et alors j'ai pu bénéficier de ça moi dans ma famille et c'est vraiment aussi ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc je transmets des identités. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Il faut transmettre sa langue maternelle quand on le peut, il faut transmettre ses cultures notamment les cultures de l'immigration, les cultures de l'exil, les cultures africaines, sa religion quand c'est l'islam. Il faut le faire sans trembler, il faut le faire sans complexe d'infériorité. Je parle dans le livre de l'impact psychique que peut avoir la honte du parent qui n'ose pas transmettre à ses enfants de peur de stigmatiser les identités de l'enfant. Donc je pense que c'est important de transmettre et de le transmettre de manière assumée, d'y passer du temps, d'y mettre de l'énergie, etc. Et en même temps, pour moi, il faut aussi transmettre cette capacité de l'individu, de l'enfant en l'occurrence, à se détacher de ses identités. C'est-à-dire, il faut transmettre l'identité sans avoir honte, et en même temps, il faut que l'enfant puisse remettre en question ses identités, en changer s'il le veut, etc. Donc voilà, c'est cette transmission qui n'est pas définitive que j'essaie de valoriser dans le livre.
Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça très important, surtout dans notre société actuelle, où on a l'impression que les identités sont figées et que du coup, elles nous enferment. Alors que justement, aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux qu'une femme puisse être fière d'être femme et en même temps ne pas être emprisonnée par le fait d'être une femme et justement les préjugés négatifs que ça peut comporter. Et de la même manière, moi je dis que je suis asiatique, évidemment je ne suis pas que asiatique, aujourd'hui on est dans un podcast qui parle de questions raciales, c'est un point de vue situé qui est le mien, c'est-à-dire que je ne peux pas parler à la place de Rokhaya ou à ta place, mais évidemment que j'ai évolué et que je vais évoluer. Et je pense que cette question-là, dans notre société, où on croit qu'on ne peut plus rien dire, c'est vraiment très compliqué pour des gens qui ne s'assument pas en tant que tels, de me dire, oh, mais t'as dit que t'étais asiatique, maintenant je te dis ni hao, pourquoi t'es pas contente? Eh ben non, en fait. tout ce qui concerne les identités, il est personnel, et du coup, il m'appartient. Et du coup, c'est à moi de me définir, et je ne me laisserai pas définir par le reste. Et ça, c'est très compliqué à comprendre, j'ai l'impression, lorsque... je sais pas quand. Il y a des gens qui me disent, bah moi je suis de nulle part. Je dis, bah non, en fait, tu n'es jamais de nulle part. Oui, mais moi j'ai pas une origine aussi exotique que toi ou exotique.
Non, les gens disent, je n'ai pas d'origine.
Je n'ai pas d'origine.
Ouais. Je trouve que c'est vraiment.
Moi je suis franco-français.
Ouais, c'est ça, mais c'est une origine. C'est aussi une origine. Quoi. La France est située géographiquement, donc c'est bizarre de dire ça, je trouve.
Oui, bah c'est peut-être pour répondre à cette injonction en fait faite à l'immigré, enfin à l'immigré de manière générale, à ne pas avoir d'histoire, à ne pas être ancré quelque part. Et c'est Abdelmalek Sayad, le sociologue Sayad, qui montrait à quel point, en France, on préférait l'immigré sans histoire, sans mémoire, sans ancrage. Et effectivement, c'est répondre à cette injonction-là. Donc oui, il faut dire, on vient de quelque part, on est descendant. Voilà, on a aussi une histoire, on a aussi une mémoire. Et notamment, une histoire, une mémoire de lutte, parce que je pense que c'est là que le bas blesse, en réalité. Tant que c'est transmettre des identités exotiques, par exemple orientalistes, qui correspondent comme ça à des fantasmes bon, souvent coloniaux, on est plutôt encouragé à le faire. À partir du moment où ça correspond comme ça à des préjugés culturalistes, voire racistes, c'est à partir du moment où on transmet des identités qui permettent notamment à l'enfant de se défendre face à des oppressions qu'il peut potentiellement subir, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous demande, qu'on exige de nous, parents, de laisser le choix à l'enfant, par exemple, de ne pas être musulman. Voilà, mais pourquoi vous lui imposez ce prénom musulman, le pauvre, pourquoi vous lui imposez la religion musulmane, les pratiques, etc. Comme si, finalement, seuls les parents musulmans, notamment, ne pouvaient pas transmettre leur religion.
Parce que Gabriel et Mathieu, c'est pas imposer une vision du calendrier.
Exactement. Mais je pense que c'est tout le potentiel de résistance, en réalité, qu'on veut neutraliser. C'est-à-dire, encore une fois, hein, tant que c'est des préjugés, etc., il n'y a pas de problème. Mais dès que, par exemple, il s'agit de lutte de l'immigration, de lutte anticoloniale, notamment, et donc, dès qu'il s'agit de transmettre à l'enfant ce qui va l'armer, encore une fois, pour se défendre face à l'injustice, face aux humiliations, etc., c'est là que vraiment le bât blesse. Et pour autant, il faut le faire. C'est-à-dire que vraiment, nous, parents, s'il y a bien une chose qu'il faut transmettre à nos enfants, et ça fait partie pour moi du segment central de l'éducation, c'est cette capacité à ne pas se résigner. Donc après, ça peut passer par des identités culturelles, comme je disais tout à l'heure, hein, la langue, la religion, l'histoire du pays, etc. Mais ce que je retiens, moi, c'est bien cette capacité à ne pas se résigner face à l'injustice. Et c'est là où il y a quelque chose d'universel.
Et justement, le fait de te situer dans ton livre, dès le départ, te permet de proposer un projet de société dans son ensemble, hein, et pas uniquement pour les quartiers, ou enfin, je ne sais pas comment on dit ça maintenant, urbain. Et la dépossession des parents, c'est un thème qui est assez central dans ton livre, et j'aimerais qu'on commence par ça, en parlant de l'alternative végétarienne à l'école. C'est une campagne nationale qui a été menée par le Front de Mer depuis 2017, avec des acteurs des organisations écologistes comme Greenpeace, l'Association végétarienne de France et le soutien d'Attaque. Le slogan « L'alimentation de nos enfants, c'est important », c'était votre slogan. On pourrait croire que tout le monde, tous les parents sont d'accord avec ça, mais en fait, dans les faits, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche et comment vous en êtes aujourd'hui?
Alors, c'est l'origine vraiment de, en réalité, pas que du livre du Front de Mer également, c'est-à-dire le fait qu'on ait imposé de la viande dans les assiettes des enfants en maternelle. Et en réalité, le fait que ça posait problème aux parents, aux enfants, et qu'une solution simple, facile et puis voilà, consensuel, enfin en tout cas qui aurait dû être consensuel
et écologiste,
voilà, et puis en termes d'égalité de traitement, de justice sociale, de santé publique aussi, faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d'un repas équilibré à la cantine. Cette solution simple n'a pas été retenue par...
Donc la solution simple, c'était de proposer systématiquement une alternative végétarienne.
C'est-à-dire, voilà, un choix.
Tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a viande et pas viande.
Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer à l'ensemble des enfants un repas végétarien. Alors, il se trouve qu'à Bagnolet, en l'occurrence en 2016, il y avait dans les assiettes 5 fois sur 5 de la viande. C'était tous les jours. Et donc... Il ne s'agissait même pas à l'époque de dire, voilà, on veut des plats végétariens 1, 2, 3, 4 systématiquement par semaine à la place du plat avec viande. Non, là, il s'agissait à l'époque de dire, alternative végétarienne, vous voulez que votre enfant mange de la viande ? Allez-y, 5 fois sur 5 même. Enfin, voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez opter pour cette option-là, mais laissez aussi les parents qui ne veulent pas que leurs enfants mangent de la viande à la cantine opter pour une autre option où, cette fois, ils auront donc un repas sans viande, mais équilibré. Parce que c'est ça qu'il s'agissait vraiment de répondre au fait que, par exemple, à Fontenay-sous-Bois, 50% des enfants qui sortaient de la cantine démarraient leur après-midi sans avoir pu avoir un repas équilibré. Donc c'était vraiment voilà, permettre aux enfants de manger à leur faim et correctement, sainement. Effectivement, ça n'a pas été considéré comme une solution légitime, c'est-à-dire que j'ai été renvoyée à l'époque, parce que j'ai essayé au départ au sein d'une organisation, d'une fédération de parents, la FCPE, j'ai essayé de porter cette question de l'alternative végétarienne sur un mode écologiste. Je parlais d'alternative végétarienne et puis je venais avec des rapports de l'OMS, avec quelque chose de très légitime en fait.
Organisation mondiale de la santé.
Voilà, et qui préconisait en fait le fait qu'il ne fallait pas manger plus de 2 ou 3 fois par semaine de la viande, tout compris le soir, le week-end, etc. Donc là, on était avec 5 fois sur 5. Moi, ce que je disais à l'époque, c'était on était proche de l'empoisonnement. Enfin, je faisais ce terme-là pour leur dire. De toute façon, ce n'est pas possible de consommer autant de viande pour les enfants selon les organisations internationales compétentes. Et donc, je suis arrivée avec ce propos-là. Très, encore une fois, très carré, très scientifique, très chiffré, très mesuré. Et on m'a renvoyé vers des polémiques assez incroyables. C'est-à-dire que je connaissais ces polémiques pour avoir milité déjà, enfin, je militais déjà les années auparavant. Mais là, vraiment, j'ai été confrontée à des trucs, j'avançais masquée.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ton origine présumée et ta culture présumée ont complètement orienté la compréhension de ce que tu proposais.
Tout à fait. C'est-à-dire que j'avais beau répéter que, donc, il s'agissait d'alternatives végétariennes, qu'il s'est donc végétarienne. Donc on me renvoyait au fait que je demandais du halal.
Tu dis, il n'avait absolument rien à voir avec ce que je disais.
C'est halal dans nos cantines.
C'est juste le contraire.
C'est parce que tu t'appelles Fatima, en fait.
C'est juste le contraire. Mais ça paraissait pas paradoxal parce que circulait une représentation de la mère que je suis, une représentation d'une femme qui avance masquée. C'est-à-dire, j'avais beau dire c'est l'alternative végétarienne que je veux, en fait, en réalité, j'avais un double discours. Et en vérité, ce que je voulais, c'était islamiser l'école, que en fait, l'alternative végétarienne, c'était le cheval de Troie, qu'on commençait par un petit... Enfin, là, on ne me voit pas, mais par un petit bout de doigt, et en réalité, je voulais prendre le bras. Enfin, il y a tout ça qui a été mobilisé, et vraiment en direct. Je veux dire, ce n'était pas des sous-entendus, ou des... on parlait de Daesh, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt par rapport au terrorisme, etc. Bon, on parle bien de la cantine en maternelle. Hein, c'est pas
l'étape d'après la cantine, le halal, c'est le terrorisme. Djihad, ouais.
Voilà, exactement. Et tout ça qui a été mobilisé. Enfin, je parle beaucoup de ça dans le livre parce que, il y a une partie qui est consacrée. C'est pour dire à quel point il est difficile lorsqu'on est parent des quartiers populaires, mère en particulier, de se battre pour quelque chose d'aussi anodin que la cantine. Quand on parle des quartiers populaires en disant, mais regardez, ces gens-là, presque génétiquement, en fait, ils ne se battent pas, ils sont passifs, ils ne sont pas politisés, on parle de désert politique dans les quartiers. En fait, j'avais besoin, moi, de dire, non, on essaie, en fait, de se battre pour nos enfants, on se bat, on s'est toujours battu. En fait, je parle aussi de luttes glorieuses qui ont été menées dans les quartiers populaires, dans l'immigration, de manière plus générale. Et malheureusement, en fait, on s'épuise psychiquement. Enfin, j'ai donné mon cas et j'ai dit à quel point j'étais militante lorsque j'ai posé cette question d'alternative végétarienne pour dire justement, je suis militante et malgré ça, j'ai failli lâcher l'affaire à de nombreuses reprises. Et je répète dans le livre, l'école c'est la guerre, parce que je rentre chez moi, je me dis mais l'école c'est la guerre en fait. Et l'école maternelle en particulier, encore une fois, hein, c'est pas l'OTAN, c'est juste la petite maternelle de Bagnolet, quoi. Et donc, c'est de dire à quel point c'est compliqué, en fait, seul. Voilà. Et le propos du livre, c'est vraiment de dire, il ne faut pas rester isolé. Parce que lorsqu'on reste isolé, en fait, on pète un câble. Et finalement, on finit par se résigner. Et on s'enferme dans ce sentiment vraiment d'impuissance. Dans le livre, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai été voir d'autres personnes, en l'occurrence d'autres mères, plutôt quartiers populaires et plutôt issus de l'immigration postcoloniale, c'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai pu respirer et où finalement, ça a pu vraiment me conscientiser en tant que mère, ça a pu me permettre d'avancer sur plein d'autres questions, et puis d'avancer aussi dans l'éducation que j'ai vis-à-vis de mes enfants. Donc comment sortir de l'isolement, systématiquement chercher le collectif, aller voir d'autres parents, essayer de, à son petit niveau, en bas d'immeuble, dans le quartier, autour de l'école, s'organiser en tant que mère, et dans quelle mesure, à partir de ce moment-là, on peut vraiment mener un projet éducatif ensemble, en fait, et comment on éduque ensemble nos enfants, et comment on y réfléchit, comment on ne se laisse pas faire, et comment on les arme, voilà.
Alors, l'école, c'est aussi un lieu, c'est aussi le support d'un certain nombre de polémiques médiatiques. Il y a des expressions qui reviennent de manière récurrente, les parents démissionnaires, le fait de supprimer éventuellement les allocations familiales en cas d'absentéisme à l'école, l'école de la confiance, le halal dans les cantines, enfin, tu viens de l'évoquer rapidement, l'arabe obligatoire à l'école, qui serait aussi un autre cheval de Troie, l'arabe qu'on imaginait devenir obligatoire, le fait de lutter contre la radicalisation. Donc, ce sont des idées reçues négatives et persistantes qui visent une catégorie de parents, des polémiques qui sont récurrentes et qui illustrent d'une certaine manière la résistance à un dialogue social constructif sur les questions d'éducation dans les quartiers qu'on dit populaires. Justement, quelle est la réaction face à ces polémiques un petit peu caricaturales du front de mer auprès de ses membres et comment vous vous organisez justement pour faire en sorte qu'on ne soit pas à la surface avec ces débats mais qu'on arrive vraiment à transformer l'école au bénéfice à la fois des enfants et de leurs parents?
Déjà, nous, on part d'une analyse en termes structurels de l'école, c'est-à-dire pour nous, en fait, le fait que certains enfants soient stigmatisés, soient discriminés, soient humiliés dès le plus jeune âge, en réalité dès la crèche, dès la maternelle, et tout au long ensuite de leur scolarité, c'est pas un accident pour nous, c'est pas un dysfonctionnement de l'école. En réalité, l'école est une machine à reproduire les inégalités. Voilà, elle reproduit les inégalités sociales de manière générale et précisément les inégalités raciales. Et finalement, cette réduction du champ des possibles, que sont les discriminations, les stigmatisations, etc., que subissent les enfants non blancs et en particulier de classe populaire, cette réduction du champ des possibles a une fonction. C'est-à-dire qu'elle a cette fonction d'orienter ses enfants vers un sous-marché du travail qui leur est dédié. Donc quand on dit à une petite fille d'origine marocaine, par exemple. Tu es très douée pour faire à manger. Et finalement, on la décourage un petit peu d'aller vers d'autres choses, les matières plus scientifiques, etc. C'est une manière, petit à petit, de l'orienter vers un métier, voilà, cuisinière, nounou, faire du téléconseil, être à la caisse, etc. Donc, et c'est comment, en fait, voilà, on l'a construit ainsi. La réduction du champ des possibles, c'est ça. C'est, il y a tant d'ambitions au départ, et c'est comment petit à petit on réduit les ambitions jusqu'à faire croire à l'individu, donc l'enfant, qu'en fait, bah, il est très doué pour faire à manger, pour s'occuper des enfants, etc. Et il n'a même pas imaginé qu'il pourrait être médecin, qu'il pourrait être grand scientifique, partir dans les étoiles, etc. Donc voilà, déjà, nous, on part de cette analyse-là, donc encore une fois, systémique, et on lutte. C'est-à-dire que vraiment, pour éviter d'être dans les polémiques, où on va nous renvoyer... aux questions, par exemple, autour de la laïcité. Moi, je ne calcule jamais les questions de laïcité quand il s'agit de l'école. Jamais. Enfin, vraiment, les gens qui essayent comme ça de nous tirer vers la laïcité, etc., je leur dis vraiment très poliment, mais rentrez dans un mur, parce que je sais qu'il n'y a pas de problème fondamental de laïcité à l'école. Le vrai problème est vraiment, soit vous êtes honnête et vous vous en rendez compte, sinon c'est de la malhonnêteté, notamment intellectuelle, et je sais que vous êtes réactionnaire et que vous voulez maintenir cet ordre inégalitaire. La vraie question à l'école aujourd'hui, c'est la question de l'égalité. C'est le fait qu'à l'école, il y a des inégalités structurelles qui sont massives, et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'OCDE, rapport après rapport, classe la France, le système scolaire français, parmi les plus inégalitaires des pays dits développés. Donc il y a un vrai problème, le problème des inégalités structurelles qui font que les enfants d'ouvriers, les enfants issus d'immigration africaine, d'immigration postcoloniale, soient orientés précisément, quasi exclusivement vers ce sous-marché du travail, donc on l'a dit, hein, téléconseil, caisse, livraison, ce tertiaire à la chaîne, là. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui, qui passe notamment, j'en parle dans le livre, par une discrimination territoriale, qui est alors ce qu'on appelle l'évitement scolaire. C'est dit de manière très pudique, mais en réalité, c'est un système de fraude scandaleux, système de fraude généralisé, et qui fait que les classes moyennes supérieures, en fait, fraudent pour que leurs enfants ne soient pas scolarisés dans des écoles où sont scolarisés également des enfants de classe populaire, et en particulier descendants de l'immigration postcoloniale. Voilà, donc, et pour moi, c'est ça qui devrait être au centre. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc, il faut vraiment essayer, lorsqu'on est parents organisés sur ces questions de l'école, de garder les objectifs en tête. Les objectifs, c'est l'égalité, la justice, le respect de la dignité humaine. Voilà, la fraternité, la solidarité, enfin, ces valeurs-là, en fait, universelles. Et il faut essayer de se battre là-dessus. Toutes les polémiques, notamment médiatiques, mais pas que médiatiques, en réalité, portées aussi parfois par l'institution scolaire. Bon, voilà, il faut essayer de ne pas rentrer dans le débat et vraiment faire en sorte, avec notamment les enseignants, les parents avec les enseignants, de revenir à cette question de l'égalité.
Le côté collectif, hein, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton propos, parce que quand on est parent et qu'on a des enfants à l'école publique, c'est mon cas, et que parfois nos enfants, alors pas forcément les miens, mais ça m'est arrivé, sont confrontés à des situations de discrimination, on se sent très 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 seul. Et je vais parler d'islamophobie parce que moi, ça m'est arrivé dans mon établissement l'année dernière, une mère dont l'enfant a été... Et tu sais, le racisme, c'est pas un truc franc, c'est-à-dire que quand la mère te dit « ouais, il s'est passé ça », mais moi, j'ai l'impression que... Et puis, elle a redit ça, la maîtresse, elle a dit ça. Et en fait, tu sens que... Je dis, mais en fait, je vous crois, parce que c'est jamais très franc, le racisme. C'est-à-dire que, surtout à l'école, on marche sur des œufs. On ne veut pas dire « la maîtresse est raciste ». On ne veut pas dire « la maîtresse, elle est islamophobe ». Mais moi, je... Mais comment on fait ? C'est-à-dire, comment on fait pour sortir de l'isolement quand on est... notre enfant est dans une classe où la maîtresse a manifestement dit quelque chose d'islamophobe ou de raciste, etc. Comment on fait ? C'est-à-dire que comment on fait pour que notre enfant puisse profiter ? Enfin, on peut pas s'organiser assez vite pour que notre enfant il bénéficie d'un syndicat, ce front de mer, la rentrée là. Et souvent il y a qu'une liste en fait dans les petites écoles, dans certains établissements, on n'a pas le choix en fait de la représentation syndicale. Comment on fait ? Est-ce qu'on demande à ce que l'enfant soit retiré de l'école ? Parce que souvent on nous dit allez dans le privé. C'est ça que tu dis dans ton livre. À un moment tu dis vous n'êtes pas contente ? Allez dans le privé. Arrêtez de nous faire chier avec vos problèmes de minorité là.
Parce que c'est paradoxal parce qu'on reproche toujours à des gens de pas croire en la République et en fait on les renvoie vers une solution qui n'est pas proposée par la République.
Et donc ça, moi c'est un cas d'école. Comment est-ce que on fait ?
quand on est confronté à ça pour faire de notre cas individuel un cas, enfin quelque chose de collectif et ne pas avoir des stratégies du coup personnelles, enfin d'essayer de trouver des stratagèmes personnels pour notre enfant, parce que c'est quand même ça qui nous importe en tant que parents, même si évidemment l'intérêt collectif est quelque chose que sur lequel on doit investir sur le futur en tant que pour l'école publique, pour les enfants, nos enfants et les enfants de nos enfants, etc. Mais quand on est démuni. Moi, je vois des parents démunis et je ne sais pas quoi leur dire.
Alors, parce que, oui, effectivement, alors déjà, l'école, c'est un peu comme l'hôpital. On a l'impression que c'est une parenthèse enchantée où il ne faut pas utiliser ces grands mots que sont le racisme, les inégalités raciales. Notamment, on m'a beaucoup renvoyé au fait que lorsque je me plaignais, par exemple, de racisme, il ne fallait pas importer les idées des États-Unis.
Il fallait
arrêter avec ça, qu'il ne fallait pas bourrer le crâne des enfants, qu'il ne fallait pas que j'instrumentalise mes enfants à des fins politiques, comme si j'avais enfanté uniquement pour emmerder la France et puis être comme ça dans un projet communautariste, séparatiste à l'américaine. Et donc, voilà, il y a l'idée quand même qu'à l'école, surtout en maternelle, en primaire, c'est un lieu où il ne faut pas parler fort. C'est un univers un peu enfantin. Il y a des doudous, il y a les porte-manteaux, il y a les petits crayons, les feutres, etc. Donc, ce n'est vraiment pas le lieu où on peut se permettre de venir avec des gros sabots comme ça, pointer du doigt les discriminations, le racisme, etc. Mais on retrouve la même chose, je trouve, moi, quand il s'agit des discriminations au sein de l'hôpital public. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà cette gêne-là. Comment, en tant que parent qui n'est pas forcément le bienvenu, de manière générale, au sein de l'école, c'est-à-dire que les parents ne sont pas les bienvenus, on fait tout pour les laisser à l'extérieur, comment le parent se permet de venir pour dénoncer des situations et puis, éventuellement, pour être force de proposition pour qu'il y ait du changement. C'est vrai que c'est difficile et en même temps, je t'assure que, parce que tu disais, voilà, comment on fait lorsqu'on ne peut pas attendre comme ça la constitution d'un syndicat, etc. Je t'assure que mon expérience montre qu'à chaque fois que quelques parents, mais c'est quoi, c'est 2, 3, 4 parents dans une école, se bougent sans forcément passer par la liste. Alors c'est vrai que c'est bien la liste des délégués au mois d'octobre, donc les élections ont lieu au mois d'octobre. C'est vrai que c'est bien de l'investir cette liste. Et nous, c'est ce qu'on demande au Front de Mer, c'est qu'on demande au collectif de parents de faire des listes, de se présenter aux élections de parents. Ça, c'est vrai que c'est bien, c'est important. Ça demande, c'est vrai, un minimum de structuration, c'est vrai. Mais il suffit qu'il y ait, encore une fois, 2, 3, 4 parents qui se mobilisent sur une question. Par exemple, des propos racistes ont été tenus, qui demandent un rendez-vous à l'inspecteur, à l'inspectrice académique, voire au directeur, directrice académique. Et franchement, ça peut très, très vite faire la différence, en fait. On a très vite un rendez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne viens pas isolé, où tu dis « attention, là, je suis collectif, c'est-à-dire je suis avec d'autres parents, et on vient, et attention, parce que du coup, on ne pourra pas me renvoyer à un propos individuel, au propos hystérique, parce que ça, on dit souvent, là, c'est une hystérique, elle est en colère, c'est une folle, etc. Non, là, on est plusieurs parents, et on est prête à se mobiliser, on est prête à appeler les médias. Donc il y a on a le contact d'un journaliste, le journaliste, je sais pas, du Parisien par exemple, et voilà, on va dénoncer ça, on va mettre, et il suffit de ça parfois pour vraiment débloquer une situation et pour inverser la honte entre guillemets, c'est-à-dire que tout à coup l'institution reçoive le parent, les parents, et disent non mais finalement voilà, il y a eu un malentendu. Alors c'est jamais la réponse qu'on attend, mais au moins il y a une disqualification du propos raciste par exemple qui a été tenu. Donc, et ça peut aller très vite, ça peut s'organiser en quelques jours. Il y a toute une partie, la dernière partie du livre, qui est consacrée justement à stratégiquement comment on s'organise, et c'est ça, il faut s'entraider. C'est-à-dire que c'est vrai que sur certains territoires il y a des parents qui sont démunis comme tu dis, mais on est là aussi pour ça, les gens qui sont déjà organisés pour venir avec par exemple comment on contacte les médias, comment des choses toutes simples, hein. On rédige un mail adressé aux autorités, aux acteurs institutionnels, je le disais, inspection académique, direction académique. Et là où je voulais en venir, c'est que ça marche vraiment. Moi, il n'y a pas une lutte, et encore, je mets des grosses guillemets à lutte, c'est pas une lutte, hein, c'est vraiment envoyer un mail pour dénoncer une situation où ça n'a pas débouché sur un dialogue, finalement, et sur, voilà, alors, je vous dis, hein, les enseignants en question ne sont pas forcément licenciés, par exemple, mais au moins, il y a une disqualification, et c'est ça. Et je pense que c'est un bon début, voilà, mais c'est pas impossible, pas du tout.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Edition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Edition.
Alors, c'est intéressant justement que tu parlais de cette image de la mère folle, hein, parce que ce que tu dis dans ton livre très très bien, c'est que c'est important de ne pas s'organiser comme un collectif spontané, mais vraiment de s'inscrire dans une continuité par rapport à des luttes passées. Donc tu évoques la question de des folles de la place Vendôme, qui elle-même s'inspirait d'un mouvement de femmes en Argentine dont les enfants avaient été victimes de la dictature et qui s'étaient mobilisées pour qu'on retrouve la trace de leurs enfants disparus, probablement assassinés. Et effectivement, tu le dis bien dans ton livre, on a toujours cette image des générations précédentes d'immigrés qui étaient voûtés, soumis face à l'oppression, alors même que tu évoques des luttes qui ont fait avancer la question du droit au logement, notamment avec les foyers de Sonacotra, etc. Comment justement le Front de Mer a réussi à faire le lien entre ces mobilisations actuelles sans effacer en fait ce qui s'est produit par le passé, notamment de la part de femmes et de la part de personnes qui étaient migrantes elles-mêmes ?
Bah, c'est en se plongeant dans sa propre histoire et dans sa propre mémoire de l'immigration. Le fait que, parce que tu disais, les folles de la place Vendôme se sont inspirées des folles de la place de Mai en Argentine. Alors, c'est vrai qu'elles ont repris le mode opératoire, entre guillemets. Et on va sur la place de la capitale et on y va comme ça pour essayer d'occuper le maximum d'espace, pour se donner à voir, etc. Donc, sur le mode opératoire, entre guillemets, c'est vrai qu'elles ont repris, puis elles se sont auto-désignées folles, effectivement, pour renverser le stigmate et se l'approprier. Mais en réalité, elles s'inscrivent aussi dans l'histoire de l'immigration et j'allais dire dans cet attachement qu'ont les hommes et les femmes immigrés au devenir de leurs enfants. Alors, je ne dis pas du tout que les parents non-blancs, je parle beaucoup des parents africains dans le livre, aiment plus génétiquement presque leurs enfants que les autres. Je ne dis pas ça, même si je dis quand même qu'on aime nos enfants, parce que parfois, on est renvoyé à cette représentation du parent non-blanc qui n'éprouve pas d'amour pour ses enfants. Il utilise ses enfants. Je vous disais tout à l'heure, hein, moi, j'ai beaucoup été renvoyée au fait que j'utilisais mes enfants pour faire passer des idées, mais on retrouve les mêmes représentations chez les Roms, notamment. Donc, entre nous et nos enfants, il n'y aurait pas d'amour. Donc, c'est important d'affirmer ça, d'affirmer, nous, on aime nos enfants autant que les autres. Mais je trouve qu'il y a quelque chose peut-être supplémentaire dans l'immigration. Donc, c'est pas, ça, on parlait des identités figées. C'est pas parce qu'on est, par exemple, d'origine africaine. Non, c'est parce qu'on a migré, on s'est exilé, on s'est désancré, on s'est déraciné. Et souvent, si on l'a fait, quand on demande aux gens qui ont migré, donc qui ont quitté leur terre, qui ont quitté leur histoire, qui ont quitté leur famille, si ces personnes l'ont fait, souvent, c'est pour leurs enfants. En se disant, pour moi, c'est pas grave, moi, je peux subir des choses, etc. Mais par contre, je veux mieux pour mes enfants, je veux assurer un meilleur avenir pour mes enfants. Et je trouve que dans l'immigration, il y a cette volonté, comment dire, en tout cas, il y a le fait d'assumer, de se battre pour ses enfants. Et qui est spécifique, je trouve, moi, à l'immigration, c'est d'ailleurs ce qui fait que, très naturellement, moi, je me suis pas sentie à l'aise avec ce féminisme qui a tendance à dissocier radicalement les femmes des mères en faisant presque comme si c'était honteux en fait de se battre pour ses enfants. C'est, mais non, pourquoi tu te sacrifies ? C'est, t'as pas à te battre pour tes enfants, bats-toi déjà pour toi-même. Moi, je trouve que dans l'immigration, il y a ce côté un peu sacrificiel, mais qui est pas. Alors, il faudrait un autre mot que sacrifice, parce que peut-être que sacrifice là, ce serait péjoratif. Mais en tout cas, cette idée que on assume de faire passer ses enfants devant. Et quand tu regardes effectivement dans l'histoire de l'immigration, il y a ces luttes où on parle beaucoup beaucoup des enfants. Boulogne-Billancourt, par exemple, 67, en 1967, t'entends donc les moustachus qui sont là, les ouvriers, etc. Et quand tu les écoutes parler, en fait, ils parlent beaucoup de leurs enfants. Parce que s'ils se battent, ils se mettent en grève et s'ils prennent les risques qu'ils ont pris à l'époque pour se battre, c'est pour les enfants. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose là qu'il faut complètement assumer. Alors évidemment, j'ai parlé des Folles de la Place de Mai et c'était normal parce que les Folles de la Place Vendôme elles-mêmes ont fait ce lien. Donc c'était pour leur rendre justice en fait et reconnaître elles-mêmes les références qu'elles ont pu mobiliser. Mais c'est aussi important pour moi de parler de l'immigration postcoloniale en France, notamment africaine, et de dire que voilà, il y a. Tout est là, en fait. Et il suffit de se reconnecter presque avec son histoire, son passé, pour trouver de la force pour les luttes d'aujourd'hui.
J'aimerais qu'on écoute un son ensemble. Alors vous avez tous reconnu ce son, hein, c'est donc NTM, Laisse pas traîner ton fils, qui est un, on va dire, un groupe mythique et aussi un titre
c'est
mythique.
Un classique. Hein,
voilà, de moi, en tout cas, quand j'ai grandi, il y avait ça. Donc toi, tu parles de réinvestir la parentalité et le message dont on a été arrosé, des quartiers urbains populaires, c'est cette idée que si tu laisses traîner ton fils, eh ben il va glisser. Et que c'est de ta faute, en fait, si ton fils, il finit dans la rue, en prison, enfin je sais, voilà, toutes ces idées-là. Donc moi j'aime beaucoup comment dans le livre tu fais une différence entre le mot mère et le mot maman. C'est-à-dire qu'il y a un côté très politique au mot mère et un côté plus affectif, ce côté la maman qui va soulager et qui aussi, comme tu le dis très bien, le tampon entre la famille et la société et le garant de la reproduction des inégalités sociales de cette société. On met sur la charge des mamans, des mères, enfin en tout cas moi je préfère le mot mère comme tu l'expliques. Est-ce que tu peux nous dire vraiment cette différence de langage et en quoi c'est dangereux d'associer la parentalité avec le laxisme, enfin avec la le glissement que ça peut opérer.
Oui, parce qu'alors, effectivement, les mamans des cités existent déjà dans la politique publique, en particulier dans la politique de la ville. Et effectivement, je montre à quel point, en fait, ce mot « maman », en fait, y compris au pluriel, donc les mamans des cités, renvoie au respect que sont censés avoir davantage les jeunes hommes, les jeunes adolescents issus de l'immigration postcoloniale pour leur maman, parce qu'ils seraient d'origine africaine ou méditerranéenne, etc. Mais comme ils respectent leur maman, quand leur maman vont pleurer devant la porte pour leur dire « mon fils ne sort pas dehors, il va t'arriver des choses, etc. Respecte-moi, etc. » En fait, le fait de parler de maman, c'est ça aussi qu'on cherche à mobiliser, ce côté affectif entre l'enfant et la mère. Et puis effectivement, on cherche chez la mère ce côté tampon, c'est-à-dire la mère qui va calmer le jeu. Son enfant, son fils en particulier, parce qu'il s'agit des fils pour la politique de la ville, hein, évidemment, puisqu'il s'agit de l'espace public où circule ces classes dangereuses. En fait, on attend de ces mères qu'elles, lorsque leurs fils veulent circuler librement dans l'espace public, qu'elles leur demandent de ne pas le faire. Et lorsque leurs fils, leurs enfants en général sont en colère, on attend de ces mères qu'elles calment la colère, qu'elles soient dans le déni par rapport aux humiliations, aux discriminations, qu'elles tempèrent. Voilà. Et effectivement, le livre est construit contre cette représentation de la mère tampon, de la maman tampon, donc. Pour dire, voilà, nous refusons de faire tampon entre nos enfants et l'institution. Je prends l'exemple des révoltes populaires de 2005, où effectivement, quand sont morts Ziad Benna et Bouna Traoré, on a renvoyé tout de suite la responsabilité aux parents, donc laxistes, démissionnaires, en particulier en Seine-Saint-Denis. Polygame, donc c'était aussi lié à la culture africaine, fantasmée, etc. On a renvoyé tout de suite la responsabilité du fait que ces deux enfants, ces deux adolescents soient morts, non pas à la responsabilité policière, mais bien à la responsabilité des parents. Donc il y a dans le livre effectivement un travail de déconstruction par rapport à ce parent démissionnaire. Et en même temps, dans le livre, je m'adresse aussi aux parents des quartiers populaires, aussi aux parents descendants de l'immigration postcoloniale, pour dire, c'est vrai que nous sommes stigmatisés en tant que parents, c'est vrai que nous ne sommes pas respectés en tant que parents, c'est vrai. J'en parle beaucoup dans le livre. Mais en même temps, nous avons une responsabilité collective. Alors, jamais je ne pointe du doigt dans le livre tel ou tel parent en disant « il faut faire ceci » ou « il faut faire cela » ou « on fait mal », etc. Mais j'en appelle quand même à une responsabilité collective, notamment des parents des quartiers populaires, sur différentes questions, notamment la question des violences interquartiers. Pourquoi nos enfants s'entretuent ? Pourquoi nos fils tuent ? Pourquoi nos filles sont tuées ? Enfin, il y a une question là où on doit tout de suite poser la question de la responsabilité des pouvoirs publics, de l'État. C'est parce qu'il y a moins de services publics dans nos quartiers, c'est parce que nous avons à faire des écoles de seconde zone, etc. Mais en même temps, ce sont nos enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, collectivement, dans le quartier, pour faire en sorte que ça n'arrive plus, en fait? On a une responsabilité collective, il ne faut pas qu'on reste isolé, etc. Donc j'en appelle quand même à une mobilisation. Tout à l'heure, on a parlé de la transmission. Qu'est-ce que nous, on peut faire en termes de parentalité, dans l'éducation, pour armer nos enfants? Si nos enfants se retrouvent à brûler des voitures, à brûler des poubelles, etc., parce qu'ils refusent, je sais pas, même si c'est pas formulé comme tel, mais les inégalités scolaires, notamment le fait qu'il n'ait pas de perspective d'avenir, des perspectives positives, c'est-à-dire le fait qu'on réduise comme ça leur champ des possibles. S'ils en arrivent à brûler des voitures, c'est qu'on ne sait pas bouger. Si eux sont partis au front, c'est que nous n'avons pas bougé.
Manière collective, l'État et...
Mais oui, mais les parents aussi. Premier, ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise. À un moment donné, on ne peut pas simplement dénoncer le fait qu'on soit stigmatisé. Soutenir ses enfants, pour moi, c'est aussi aller se battre pour ses enfants collectivement. Et plus on se battra, nous, parents, et moins nos enfants auront à le faire. Surtout dans l'espace public, où leur colère, en fait, est de plus en plus réprimée. J'essaie de ne pas stigmatiser, évidemment, le livre, c'est quand même, pour déconstruire toutes les représentations racistes, négatives, concernant les parents des quartiers populaires, en particulier de Seine-Saint-Denis. Mais en même temps, voilà, il y a quand même une proposition, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait? Et alors, là où il n'y a pas de jugement de valeur, c'est qu'il y a une dimension très collective, et qui peut faire qu'on, voilà, on va inventer des choses aussi. On va faire en sorte que nos enfants grandissent mieux, plus curieux, plus ambitieux, en remobilisant nos histoires, notre mémoire, comme je disais tout à l'heure, la mémoire des luttes, etc. Et ça peut donner vraiment quelque chose de beau.
Et pour terminer, je voudrais parler de la puissance de la mère et aussi le nom, le collectif Front de Mère, le syndicat Front de Mère. Je pense qu'on t'a déjà posé la question, tu l'écris dans ton livre. Pourquoi tu parles de la mère? Est-ce que ce n'est pas des responsabilités les pères? Pourquoi est-ce que la figure de la mère puissante est boudée par les mouvements féministes, hein? Parce que là, en ce moment, on parle beaucoup...
Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs?
Ouais, on parle beaucoup de l'aliénation par la maternité, le fait qu'on ait une charge mentale, émotionnelle, éducative, en tant que femme, en tant que mère. Et est-ce que... on pourrait croire que féminisme et parentalité sont fâchés. C'est-à-dire que... comment est-ce que toi, tu réponds à ces interrogations?
Alors, bon, déjà, l'analyse que je fais de cet état de fait concernant le féminisme, on va dire majoritaire en France, ce sont là des luttes légitimes, notamment les luttes pour extraire les femmes d'une domination patriarcale et précisément familiale. Donc c'est notamment les luttes pour le droit à l'avortement dans les années 70. Et donc ce sont des luttes légitimes, mais pour moi, elles ont conduit à réduire les mères à leur statut de femme. C'est-à-dire que seul le sujet politique femme existe. Et les mères, du coup, elles sont coincées entre les parents qui existent, donc les fédérations de parents dont on parlait tout à l'heure, et puis les femmes. Mais elles n'existent pas en tant que mères. Alors que pour moi, il y a une puissance de fait, il y a un pouvoir de fait chez les mères qu'on ressent toutes lorsqu'on porte l'enfant, lorsqu'on enfante, lorsqu'on allaite aussi. Enfin, pour moi, le fait d'allaiter, par exemple, ça veut dire, pour les femmes qui allaitent, pouvoir nourrir exclusivement son enfant sans avoir besoin du système capitaliste, de l'industrie agroalimentaire, etc. Voilà, on devient la référence ultime de son enfant. Ça, pour moi, c'est une puissance qui est infinie, quoi, être la référence ultime de son enfant. Et c'est comment, en fait, on réinvestit ça, cette puissance. Et par rapport à la question des pères, c'est vrai qu'on me pose beaucoup. Moi, je remarque que nous sommes interpellés sur cette question des pères, surtout lorsqu'on parle de pouvoir politique, de prendre la parole politique. Je suis sûre que si j'avais fait un livre sur le soin, par exemple, les mères et le soin, un truc très culturaliste sur le soin, je ne sais pas moi, les femmes maghrébines, marocaines ou africaines, le soin et l'enfant, un truc.
Personne n'aurait pensé... À qui beaucoup de femmes blanches confient leurs enfants.
Tout à fait. Et personne n'aurait pensé, je pense, à m'interpeller sur le fait, mais où sont les pères?
Où sont les pères?
Voilà. Là, je pense que c'est parce que le titre, c'est La puissance des mères, et avec un vrai titre, quoi, pour un nouveau sujet révolutionnaire, donc un truc très politique. En plus, la figure que je mobilise dans le livre, c'est le dragon. tu vois, c'est pas le chaton. c'est pas un petit truc, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de miauler. Et puis alors, avec tout le truc autour du feu, enfin bon, dont je parlais tout à l'heure, hein, le fait d'être solidaire avec les luttes de nos enfants, je pense que c'est ça aussi qu'on cherche. Voilà, mais où sont les hommes? Où sont les pères? Bah, voilà, il se trouve que c'est un livre, là, sur les mères. Parce qu'on est dépossédé, y compris, voilà, j'en parle un petit peu lors de l'accouchement, avec les violences obstétricales, avec... Donc, il y a du pouvoir à regagner. Et puis alors, vraiment, là-dessus, j'insiste aussi, au sein du Front de Mère, par exemple, il n'y a pas que des mères. Déjà, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Je parle de Fatiha Damish, qui, au début des années 2000, avait dit, ok, militante décédée maintenant du mouvement immigration banlieue, et qui avait dit, les discriminations, les humiliations, pour nous, c'est pas grave, c'est quand ça touche nos enfants que là, vraiment, on lâche rien, etc. Et à l'époque, j'étais pas mère, et pourtant, je me sentais vraiment mère avec elle, et j'étais pas la seule dans la salle. Donc, c'est pas la mère biologique, en réalité, c'est bien la mère comme sujet politique. Il y a des hommes aussi au front de mer. Et alors, il se trouve que sur les luttes qu'on a menées, dont je parle dans le livre, et c'est pareil pour les Folles de la Place Vendôme, c'est pareil pour la lutte menée par les mères marseillaises au tout début des années 80, à la suite du décès de Lawari Ben Mohamed, les pères étaient là. Et ils étaient en soutien, ils étaient derrière. Voilà. Et c'est possible, en fait, dans les quartiers populaires, il y a une vraie lutte qu'il faut valoriser, où les mères sont devant. Ce sont des luttes politiques, et où ça ne pose pas de problème aux hommes du quartier de se mettre derrière.
Merci beaucoup, Fatima.
Merci.
On arrive donc à la fin de ce numéro de Kif Taras sur la lutte pour les enfants en fait, des quartiers populaires. Donc, Fatima Wassak, merci d'être venue nous parler de ton livre « La puissance des mères », qui est paru le 27 août dernier aux éditions La Découverte.
Vous pouvez nous écrire pour réagir sur ce qui a été dit entre Fatima, moi et Rokaya sur Twitter avec le @KifTaras ou sur Facebook avec le #KifTaras. KifTaras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani. À l'édition, merci à Camille Regache et Naomi Titi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de KifTaras. Merci Rokaya.
Merci Grâce.
Merci
Fatima.
Merci à vous.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.